J'aimerais lire avec vous ce matin un texte que j'aime beaucoup et qui est à la fois un texte que j'aime beaucoup puis en même temps un texte qui est assez mystérieux dans sa manière de se dérouler et de nous parler. Alors, je vais essayer de... Hop là. C'est dans le deuxième livre des rois, le premier livre des rois. On va commencer par un petit épisode du premier livre des rois, chapitre 19 et verset 19. Un roi 19-19, c'est facile à retenir. Ça ira ? Un roi 19-19. On va essayer de comprendre ce que c'est que d'être un disciple. Et il y a dans l'Écriture un texte particulier entre un prophète installé qui s'appelle Élie et un jeune homme, en tout cas un plus jeune, qui s'appelle Élisée. Au chapitre 19, verset 19 du premier livre des rois, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Deuxième texte, c'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2. On va lire juste cet épisode-là, jusqu'au verset 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon ça ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho le virent et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes, qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit « Ne les envoyez pas. » Waouh ! Je vois des visages dubitatifs se posant la question « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire étrange ? Quel est le sens de ces choses ?» En fait, c'est un texte qu'il faut lire et sur lequel il faut demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer. Il y a des passages de ce texte qui sont très étranges. On se trouve juste après l'épisode où Élie a été menacé par Jézabel, la femme du roi Achab, à la trouille, demande à mourir parce qu'il se sent seul, abandonné, etc. Et puis Dieu lui dit, envoie un ange lui donne à manger des crêpes. On est presque en Bretagne, hein, sur des pierres chauffées. C'est du pain sur des pierres chauffées. C'est une crampouse. On est en Bretagne. Et puis il lui fait ça une fois, deux fois. Et puis Élie, avec la force de ses pains cuits sur des pierres, monte sur la montagne de l'Horeb et là, il a ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire qu'il a une révélation, une rencontre physique, visible avec Dieu qui passe devant lui. Waouh ! Et c'est à la fin de cela, alors que Dieu passe devant lui, qu'il s'est plaint à Dieu en disant « Mais moi je suis tout seul, tous les autres t'ont laissé tomber, ce monde est pourri, etc. » Il est vraiment dans un état de désespoir complet, un sentiment d'échec. Et Dieu passant devant lui, il redit les mêmes choses. On a l'impression que rien n'a changé, mais en fait, le fait d'avoir rencontré Dieu sur le mont Horeb, sur le Sinaï, sur la montagne en hauteur, eh bien, il va reprendre sa route et Dieu lui dit, bah, tu vas installer un tel comme roi de Syrie, tu vas installer un tel comme roi d'Israël, et puis tu vas aller installer et reconnaître Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, et tu vas l'installer comme prophète à ta place. Et vient ce récit où Élie part de là et il va à la rencontre d'Élisée. Ce texte-là parle de c'est quoi être disciple ? C'est quoi d'être un disciple ? Quels sont les caractères ? Est-ce que par hasard, dans l'assistance, il y aurait des disciples de Jésus-Christ ? Je demande, hein. Non, visiblement pas. Ah si, il y a une petite main qui se dresse, mais pas au-dessus de l'épaule, hein. Juste là. Il y a l'humilité. Bon, il y a une disciple de Jésus-Christ, ça va. Bon, bah, le texte vous concerne pour vous autres qui ne seriez pas disciples. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être un disciple ? Oh, il y a beaucoup de théorisations sur le discipulat. Il y a des séminaires de discipulat. Il y a des livres qui parlent de... Je me dis, mais et si on revenait à l'écriture tout simplement ? Enfin, je sais pas, c'est une suggestion toute simple et peut-être bête, mais et si on revenait à l'écriture pour savoir ce que c'est qu'être un disciple ? Là, on est sur un texte qui parle de cela. Le premier passage nous parle de... Alors, c'est un terme que j'ai trouvé chez un théologien catholique d'il y a 50 ans qui disait... On est face à l'investiture d'Élisée. L'investiture. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, on a eu pas mal d'investitures. Ministère de la Jeunesse ou de la Santé, Premier ministre. Et les investitures se sont succédées. Ils n'ont pas duré longtemps, pour certaines. Et puis après, il y a à nouveau des investitures. Là, on est sur une investiture, celle d'Élisée. Alors, le premier texte nous raconte cette histoire, ce récit, comment Élie va investir Élisée et lui reconnaître l'appel et la vocation qui est sur sa vie. Élie reçoit l'ordre de Dieu d'installer et de oindre deux rois, Syrie et Israël, et Élisée comme prophète. Dans ce texte-là, il y a quelque chose d'étrange. Essayez de mémoriser le Jourdain, la montagne de l'Horeb, d'un côté, le Jourdain, les villes de Jéricho, de Bethel, Gilgal, près du Jourdain, etc. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très logique. Dieu dit à Élie, tu vas aller oindre un tel comme roi de Syrie, un tel comme roi, et ensuite Élisée. Or, la première chose que fait Élie, c'est d'aller installer Élisée comme prophète. Alors, certains théologiens sont un petit peu dans l'incompréhension, ont imaginé que finalement, ce passage de 1 Roi 19-19-21, où Élie va installer et prendre Élisée avec lui, c'est en fait un texte qui ne fait pas partie du texte original de la Bible, mais qui a été rajouté dans ce qu'on appelle les sources deutéronomiques, qui sont ce qui serait le texte original du livre des Rois. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple que cela, comme beaucoup d'autres exégètes qui s'intéressent à cela. La question des rois est importante. Et le fait qu'Élie soit appelé à aller reconnaître un tel comme roi de Syrie, un tel comme roi d'Israël pour succéder à ceux qui sont là, mais qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, c'est une chose importante. Dieu dirige l'histoire des hommes, même s'ils ne le connaissent pas. Mais le salut et le plan de Dieu passent par la révélation que fait Dieu de sa volonté au travers des prophètes. Le premier chant qu'on a chanté, c'est « Voici, dit le Seigneur, je répands mon esprit ». Je répands mon esprit. Dans le plan qu'il révèle à Élie sur le mont Horeb, il y a bien sûr l'action qu'il va mener pour installer et reconnaître des rois. Mais ce que l'esprit veut, c'est parler. Parler à son peuple au travers des prophètes. Alors, moi je trouve naturel que, quand il redescend de la montagne, le texte qui suit, c'est l'installation d'Élie, fils de Shaphat, qui labourait. Ce qui est intéressant dans cet ordre que Élie reçoit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras... Or, il ne va pas à Damas. En tout cas, dans le texte, il s'arrête dans la maison ou dans le champ où laboure Élisée. Ça viendra plus tard, comment le monde sera conduit par Dieu. Mais là, il y a quelque chose à faire en termes de révélation, qu'Élie puisse choisir et appeler à sa vocation Élisée qui est la boue. La première chose, c'est que Élie a vécu un temps difficile, compliqué. Il est découragé. Et peut-être que parmi vous, il y a des hommes et des femmes qui sont découragés. Vous êtes peut-être touchés par le découragement. Comment sortir du découragement? Comment sortir parfois même de la dépression? Il y a les soins, et je vous encourage, si vous êtes dans cette situation, à continuer les soins. La dépression, c'est une maladie. Mais c'est aussi, au niveau du découragement, un temps où la révélation de Dieu peut me faire retrouver mon chemin. Le découragement, ce n'est pas quelque chose qui est un péché, c'est des moments difficiles, on a des limites, et Dieu, pour nous faire grandir, nous fait parfois passer par des moments de désert. 40 jours, 40 nuits pour Élie. Ça fait penser à Moïse, il y a beaucoup de caractéristiques entre Élie et Moïse. Moïse avait son bâton, Élie avait son manteau. Ils ont eux aussi passé 40 jours, 40 nuits dans le désert. Moïse est même passé 40 ans dans le désert. Vous avez peut-être ce sentiment de passer aussi par des déserts. Va sur la montagne et prends le temps de rencontrer Dieu. C'est là aussi le chemin pour pouvoir reprendre ta route. Il est dit, va, reprends ton chemin. On a l'impression que, quand on lit le texte d'Élie sur la montagne, que rien n'a changé. Si, il dit toujours les mêmes choses. Je suis tout seul, je suis nul, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et puis les autres, ils m'ont laissé tomber. Il n'y a plus de croyants, il n'y a plus de prophètes. Et puis à la fin, Dieu lui dit, bon, je te mettrai quelques milliers de personnes qui n'ont pas encore plié le genou devant Baal pour t'accompagner dans ton chemin. Tu n'es pas seul et Dieu veut t'aider et t'accompagner dans tes temps de découragement. Alors, Élie descend, elle est dans l'obéissance et puis il va dans un champ et là il voit Élisée qui est devant 12 bœufs. Waouh! C'est une Maserati de la campagne. 12 bœufs. Il y en a deux devant lui, il est en train de travailler. Élie s'approche et jette sur lui son manteau. Et ceci fait, Élisée, quittant ses bœufs, courut après lui et dit d'abord, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. » La vocation d'Élisée, elle est assez étrange et caractéristique. C'est le seul texte parmi les textes de l'Ancien Testament qui présente une investiture, une installation. Ça, c'est plutôt notre langage apostolique. On installe quelqu'un dans le ministère. On a installé quelqu'un dans le ministère et dans le service de diaconesse. On a installé quelqu'un dans un ministère, dans un appel d'ancien ou d'ancienne. On installe. L'investiture, c'est la même nature. Eh bien, la vocation d'Élisée, c'est le seul texte où on a une investiture de manière pratique que l'on voit. Quelqu'un qui est installé dans un ministère de prophète reconnu suite à un appel de Dieu sur sa vie. Quelle est l'investiture qui est promue par Dieu sur ta vie? Ça a l'air simple, vous savez. Certains voient dans l'investiture d'Élisée quelque chose qui est analogue à ce que Jésus a fait par rapport à ses disciples. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 16, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et Jésus leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. On est dans la même configuration que Élie et Élisée. Il est en train de labourer, lui, il n'est pas pêcheur, il est agriculteur. Et puis, Élie vient, met son manteau sur lui, et Élisée quitte tout et le suit. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose de très compliqué. Quel est ton appel? Je me rappelle que dans une formation qu'on a fait à la maison, à l'origine, c'était d'un frère de Istres qui venait faire un stage de pratique pastorale que nous proposions. Sa femme était là. Et puis les circonstances ont fait qu'elle devait venir avec son fils, puis le fils, le petit garçon n'était pas là, donc on lui a proposé de suivre la semaine de formation avec son mari. Et puis on a commencé le lundi, je crois qu'il devait être 9h30 à peu près, 9h30. Et à 9h30, on les accueille, ils dormaient à la maison, mais on les accueille pour ce temps de formation. Et au bout de 5 minutes, on dit, voilà, on est là pour ce temps de formation pour Patrice qui va faire ce temps de pratique pastorale, se former, etc. Et puis au bout de 5 minutes, j'ai posé la question à son épouse, « Et toi, c'est quoi ton appel ?» Et Laïla a été surprise, elle dit, « Ah oui, moi, mon appel, elle n'imaginait pas qu'elle puisse être appelée par Dieu pour le servir. » Elle a vécu une semaine formidable, et nous aussi. Elle a découvert son appel, elle a osé en parler. Et je veux dire qu'après, elle est rentrée dans son appel. Alors moi, je vous pose la question. C'est quoi ton appel? Moi, dans l'équipe, je suis sur le banc de touche et j'attends. C'est les autres qui jouent. Il y a Michel, Rémi à la guitare, Christophe à la technique. Mais moi, non, moi, je suis sur le banc de touche. Il n'y a pas de banc de touche. T'es où? Dieu t'appelle. Et Dieu, Christ, veut faire comme avec Simon et André. Il veut déposer son manteau, faire retentir sa parole pour te dire, toi, je te veux, suis-moi. La vocation d'Élisée, c'est cette entrée, cette reconnaissance que Dieu appelle. Afin de bien comprendre l'appel d'Élisée, il faut préciser que dans ce texte-là, c'est la seule fois où celui qui est appelé va dire au revoir à sa famille. Souvent, on considère, selon le Nouveau Testament, « Ah non, non, il ne faut pas, si tu mets la main à la charrue, tu ne dois pas retourner en arrière, etc. » Et puis, on a un peu... Là, c'est le seul texte où il est dit, Élisée dit, « Il faut que je dise au revoir à papa et à maman. » Et puis, il y a une phrase qui est assez particulière d'Élie qui dit, « Va, retourne. » Et en fait, là où nous avons cette traduction, « car pense à ce que je t'ai fait », on se dit oui, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé le manteau sur les épaules. La traduction plus littérale, « va, retourne, que t'ai-je donc fait ?» Et ça paraît étrange comme réponse d'Élie. Bon, il dit, « ouais, tu peux y aller, va, retourne, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Dans le grec et l'hébreu, il n'y a pas de point d'interrogation. Hein. Donc, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que t'ai-je donc fait? Alors, en fait, les exégètes disent que cette formule s'explique par ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe? Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. C'est-à-dire que t'ai-je donc fait? Ça veut dire, c'est pas moi qui suis concerné par ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est comme ça qu'il faut le lire. En fait, Élie dit à Élisée, « Ouais, là, tu es en train de me demander une autorisation. Bah, va dire au revoir à ton père, ta mère. Qu'est-ce que je t'ai fait ça? Moi, j'y suis pour rien, quelque part. » Ça signifie que, quelque part, Élie lui dit, « Ce qui vient de se passer ne vient pas de moi. » Ça vient de là-haut. C'est-à-dire que l'appel, l'investiture qui est la tienne, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est pour ça que le verset d'après, Élisée, il a compris, il se dit, ah ben oui, c'est pas lui qui m'a investi, c'est Dieu qui m'appelle à rentrer dans le service. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben il s'adresse à celui qui l'a appelé, Dieu. Et après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. L'explication de la phrase d'Élie se trouve là. C'est, moi, je ne suis pour rien, je suis venu, je t'ai posé le manteau, on ne fait pas un pataquès, hein, je ne suis pas pour grand-chose, hein, c'est Dieu qui m'a conduit là. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Alors, venez pas me voir en me disant, « Oh Jean-Marc, c'est chouette ce que tu as dit. Maintenant, j'ai compris. Oh, qu'est-ce que... Ben, je suis pour rien, vous savez. Ben, c'est lui qui vous appelle. » Quelle réponse vous lui donnez? Élisée va prendre sa paire de bœufs, va la sacrifier, va utiliser son outil de travail. C'est-à-dire, il va sacrifier son ancienne vie, ce qu'il était, un laboureur, pour rentrer dans son appel. Je dirais, quelque part, est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu un culte raisonnable qui sera de sacrifier ce qui est ton ancienne vie pour rentrer dans une nouvelle vie, un appel, une vocation que Dieu t'adresse? Je sais que certains ont vécu cela, de changer de vie. Mais là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie ancienne sans Dieu et la vie avec Dieu et dans le service. Élisée, quand il comprend que ce n'est pas Élie qu'il doit remercier pour ce qui lui est proposé, mais que c'est Dieu, il lui fait le sacrifice de ses deux bœufs. Bon, Je ne vous demande pas de sacrifier votre voiture hein, et de la faire brûler sur le parking de l'église. Ce n'est pas ça, hein. Soyons clairs. Mais qu'est-ce qui est des choses que je suis de ma vie ancienne et que je remets au Seigneur en disant « Maintenant, c'est toi qui as la première place. » C'est cela ce que fait. Être disciple, c'est rentrer dans cette dimension-là. Et il y a ce moment particulier où Élie, pour marquer le fait qu'Élisée rentre dans une nouvelle dimension, il prend son manteau et il le dépose sur les épaules d'Élisée. Il me dirait, je vais essayer avec Ivan tout à l'heure, je vais prendre mon manteau, ma veste, je vais poser sur l'épaule, puis je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. C'est juste, d'abord, je tiens ma veste et je ne veux pas qu'elle reparte avec. Mais ça n'a pas le même sens. Le mot, le substantif qui est utilisé ici dans le texte, c'est adéret. Et adéret, c'est un mot qui, en fait, qu'on retrouve dans le livre de Jonas, au chapitre 3, verset 6, quand le roi de Ninive est interpellé par Jonas, qu'il entend la parole de Dieu, il est frappé par cette conviction que Dieu lui parle. Alors, il enlève son adéret, son manteau royal, il le laisse sur le sol, il se couvre d'un sac, et là, il s'humilie devant Dieu. L'adéret, le manteau que dépose Élie sur les épaules d'Élisée, c'est un manteau royal. C'est-à-dire un manteau qui est lié à la fonction qu'il occupe. Alors lui, il a un adéret en tant que prophète. On le retrouvera d'ailleurs dans les textes de l'Ancien Testament, comme aussi un temps, un outil que Dieu dépose pour dire « Voilà, tu occupes une place particulière. » On me disait, bon, est-ce qu'on est tous les uns et les autres revêtus d'un manteau royal ? Moi, je crois. Je crois que nous sommes dans la même position qu'Élisée. L'apôtre Paul dira, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le manteau qui est sur vos vies, c'est la nature de Christ. Il n'y a pas de manteau plus royal que celui-là. Alors, je vous le dis, est-ce que Élisée n'est pas un exemple de chrétien ? Serviteur de Christ, le chrétien, qui, comme Élisée, va dire, là où est son maître, là il sera. C'est ce qu'on dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 26. Alors, vous me direz-vous, ce texte est quand même assez étrange parce qu'il a une construction particulière. On est en train d'assister à ce qu'on appelle en cinéma un road movie. Road movie. Vous voyez, c'est ces films où les héros sont dans une voiture, ou en tout cas dans un moyen de transport, et puis ils vont de village, de ville en ville, etc. Et puis on suit les pérégrinations, et à chaque fois il se passe quelque chose. Un des plus beaux road movies, c'était ce film où il y a un vieux monsieur qui traverse l'Amérique sur une tondeuse à gazon pour aller voir son frère. Je ne sais plus, ce n'est pas David Lynch, je crois, qui a fait ce film-là. Et c'est un road movie fabuleux, fabuleux. Mais Élisée est engagé par Élie dans un road movie. Alors, il est dit dans le deuxième texte que Élie, une fois qu'il a posé son manteau, que Élisée a sacrifié son ancienne vie pour suivre l'appel et la vocation qui lui a été ouverte, entrouverte par Élie, bien Élisée est rentré lui aussi dans ce road movie. Je crois que nous sommes appelés en tant que serviteurs, disciples, à rentrer dans cette marche nouvelle d'étape en étape. La première chose, c'est que il y a Élie qui part de Gilgal avec Élisée. Et Gilgal, c'est un lieu, vous retrouvez ça dans le Deux Rois, chapitre 1, 2, verset 1. Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est là le point de départ. Or, Gilgal, c'est un lieu qui est très signifiant pour le peuple d'Israël. C'est l'endroit où les Israélites ont campé après le passage du Jourdain. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils ont vécu le salut, ils ont été libérés de l'esclavage et ils ont franchi le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. C'est la première étape, Gilgal. Et à cause de cela, ce lieu-là a été marqué par le dépôt de 12 pierres qui ont été posées là comme un rappel, un mémorial de la délivrance et de rentrer dans la vie promise. Bon, vous dites ça à des Juifs, ils vont dire « Ouais, mais c'était pas seulement ça. On a vécu quand même un épisode moins sympa que l'entrée dans la terre promise. » Vous savez ce que c'est ? Je m'adresse aux hommes qui sont plus sensibles à ce passage-là. Ouais, tous les mecs sont passés à la circoncision. Ouais, alors là, les femmes, elles disent « Ouais, bof, c'est un épisode parmi d'autres. » Ouais, mais les hommes, quand ils lisent le texte, ils disent « Ouais, quand même. » C'est l'époque de la consécration, de l'appartenance. La circoncision, c'était ça. C'est-à-dire, tu m'appartiens. C'est une alliance de sang, c'est ce que dira Moïse à sa femme quand il a vécu la circoncision. Il a dit « Je suis maintenant, tu es mon époux, dira sa femme, et je rentre dans une alliance de sang. » La circoncision à Gilgal, c'est le fait d'appartenir à, dans sa chair même. Et il y a cet épisode où Josué, quand il rentre avec Israël à Gilgal, il met 12 pierres prises dans le Jourdain et il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge. » L'itinéraire du peuple commence à Gilgal. Et il est important pour un disciple de garder en mémoire cette appartenance. Le salut qui m'a été accordé. On ne peut pas être disciple en oubliant d'où l'on vient et le salut qui est le nôtre. Pour Israël, les 12 pierres qui ont été posées, c'était 12 pierres qui étaient dans leur mémoire, même s'ils ne les voyaient plus, et qui leur rappelaient toujours et encore qu'ils étaient un peuple racheté. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et cela nous concerne. Nous sommes circoncis de cœur, hommes et femmes, parce que nous lui appartenons. Et être disciple ne peut pas se faire si nous ne gardons pas en nous ce souvenir de cette appartenance qui a coûté la vie à Christ sur la croix. Il n'y a pas d'appartenance. Il n'y a pas, je vais être catégorique, de disciple si l'individu n'est pas conscient, ne porte pas en lui, comme l'arche de l'Alliance portait un pot de manne, le bâton d'Aaron, l'étape de la loi, eh bien en moi il doit y avoir le souvenir, la réalité de ce salut qui m'a été accordé. À Gilgal, la relation avec Dieu change. Jusqu'à présent, c'était manne tous les matins pendant 40 ans, dans le désert. Tous les matins, on se levait, on ouvrait la tente et le petit déjeuner était servi. La manne était tombée pendant la nuit. Qu'est-ce que c'est génial! C'est génial quand même un Dieu qui répond comme cela tous les matins avec largesse. Et tout à coup, on rentre dans la terre promise, on se dit « Ah bah ça va être encore plus beau !» Bon d'accord, on va d'abord vous circoncire. C'est obligatoire? C'est plus la manne tous les matins? On sort dans la campagne, on récolte son repas? Non, 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 non. Là, l'appartenance, elle change. Au début de notre vie avec nous, nous voyons avec Dieu, nous voyons son amour, sa grâce, sa fidélité. Et puis, j'ai tellement entendu en 50 ans des chrétiens qui, après cette lune de miel avec Dieu, disent « Mais Il est plus lointain. Je sens moins sa présence. Puis j'ai plus d'efforts à faire. Est-ce que c'est moi qui finalement ne suis plus aussi fidèle, aussi proche de lui? Non, non, c'est pas ça. C'est parce que tu grandis. Et que Dieu ne veut pas te maintenir dans un état de dépendance affective, matérielle. Ça, c'était pour commencer à te rencontrer, à te faire prendre conscience de qui il est. Mais après, comme un enfant, moi j'ai une voisine qui est pédiatre et médecin, donc elle a eu un petit bébé il y a quelques mois, et elle le porte dans ses bras très 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 souvent. À chaque fois que je la vois, je la rencontre assez régulièrement, elle a son petit bébé dans les bras. Mais je pense que d'ici quelques mois, ça va s'arrêter. Vous imaginez que quand il aura 8 ans, qu'elle soit en train de porter son enfant? Non, il faut qu'il grandisse, qu'il prenne son autonomie. Dieu fait de la même manière avec nous. Il ne veut pas qu'on reste des enfants spirituels. Plus de cadeaux gratuits, plus de manne tous les matins, mais l'apprentissage de vivre avec lui. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie de Gilgal à Bethel. Ah, Bethel. Mais c'est bien, Gilgal. Il y a les 12 pierres, là, on les voit bien. On va rester là, on va s'asseoir. Reste ici. En hébreu, c'est Sha'av. Sha'av. Et en fait, c'est Sha'av Nafi. Reste ici, par grâce, dit Élie à Élisée. Et nous, parfois, qu'est-ce qu'on a envie de rester, de s'asseoir aux étapes que l'on vit avec Dieu? On se dit, oh non, moi je ne bouge plus là, c'est trop bien. Moi, je sais bien que on était en vacances chez Karine et Christophe il y a de nombreuses années, superbe maison avec les montagnes en face, un endroit idyllique. À la fin des vacances, j'ai dit à ma femme, moi je ne bouge plus, je reste là. J'avais un hamac. Ils avaient une maison en bois avec une sorte de couloir extérieur avec des poteaux, des hamacs. Moi, c'est ce que je me rappelle. C'est le hamac quand je regardais les montagnes. Oh non, moi, je ne retourne pas à Kevin, je reste là. Parfois, dans le salut, on vit de belles choses avec eux. On a envie de dire, ah, je ne bouge plus. Je reste à Gilgal. Et en fait, la phrase d'Élie à Élisée, c'est assieds-toi là et ne bouge plus. Non pas qu'il veuille qu'Élisée reste là, mais qu'Élisée dise, non, je continue ma route et je vais avec toi. Et il le dit de manière verte, hein, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Et Élisée répond, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ça me fait penser à Ruth. Quand Naomi dit à sa belle-fille, retourne chez tes pères, etc., je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras. J'habiterai, ton Dieu sera mon Dieu. C'est exactement la même proclamation d'Élisée. Est-ce que tu as dans ton cœur aussi ce désir d'aller plus loin? Ah ben non, et Gilgal, c'est super bien. Et... Ah non, il y a le Jourdain à côté. C'est idéal, quoi. Ouais, mais est-ce que tu as conscience que Dieu veut t'emmener plus loin dans ta foi, dans ta vie? Il veut te voir grandir. Alors, Élie, il teste la volonté du disciple. Reste, assieds-toi, Yachav. Vous êtes bien assis là, ça va? Ouais? Ah, Dieu voudrait que vous vous leviez et que vous avanciez avec lui dans son appel. Bethel, c'est le lieu de la révélation et des promesses. C'est... C'est bien ça, le lieu de la révélation. Bethel, en hébreu, ça veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est l'endroit où Jacob s'étant arrêté à une vision d'une échelle avec les anges qui montaient et qui descendaient. Et cette vision-là a fait qu'il a, là aussi dit « c'est la porte des cieux ». Et là aussi, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, c'est-à-dire où il avait reposé sa tête, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. C'est-à-dire qu'il a consacré, il dit, là, ici, c'est la maison de Dieu. Et quelque part, nous avons à habiter dans la présence de Dieu. Et pas rester sur les expériences du passé. Ensuite, alors est-ce que j'habite au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit où Dieu me veut? Est-ce que je suis prêt à habiter là où il est et pas là où je veux être? Bethel, lieu des promesses, assuré, fait au Père, reste ici, dit Élie. Tu ne manqueras pas de les obtenir, ces promesses, de la part d'un Dieu qui ne peut mentir, puisque tu as passé à Gilgal. Non, je ne te laisserai pas. Je vais avec toi. Et puis, vous avez les fils de prophètes, vous savez, dans ces trois épisodes, vous avez des fils de prophètes qui viennent dire « T'es au courant que Élie va être enlevé au-dessus de ta tête, etc. » Quand on lit ce texte-là, on a l'impression de lire des tragédies grecques. Dans les tragédies grecques, vous avez souvent des chœurs. Et des chœurs qui disent des choses aux héros qui sont dans l'action. Mais vous pouvez relire le Cantique des Cantiques, vous avez aussi des chœurs dans le Cantique des Cantiques qui parlent un petit peu, qui rajoutent des notions, des idées, des choses qui se passent comme ça pour éclairer le lecteur. Et là, vous avez sur les trois étapes des fils de prophètes. Et les fils de prophètes, ils sont là pour dire « t'es au courant que… » Et peut-être de renforcer l'engagement d'Élisée dans sa volonté de continuer sa route. Il pourrait entendre Élie qui lui dit « reste là » et s'arrêter. Il pourrait entendre les fils de prophètes dire « ah ben si, ça en va finalement, ouais, peut-être qu'il vaut mieux que je reste là. Peut-être que c'est ce que tu penses dans ta vie. Puisque Christ n'est plus tout à fait là, je peux attendre son retour tranquillement dans un coin. Hein. Pourquoi me fatiguer? J'attends son retour. » Et à chaque fois, Élisée dira « Non, en tant que disciple, je vais là où est mon maître. » Et le troisième endroit, c'est Jéricho. Jéricho, c'est cette ville qui est tombée face au peuple d'Israël qui rentrait dans la terre promise. C'est génial, Jéricho. Moi, je dis souvent, tous les jeunes chrétiens se disent oh, « bah, finalement, la vie chrétienne, c'est super facile. Tu rentres dans ta terre promise. » Tu tapes sur un tambourin et les murailles s'écroulent. Qu'est-ce que c'est génial d'être enfant de Dieu. Moi, je dis souvent, il n'y a pas que des Jéricho sur le chemin du croyant. La deuxième ville, moi, j'aime beaucoup. La première, c'est Jéricho, très facile. Mais la deuxième, elle porte bien son nom. Avec la deuxième ville, Aïe. Aïe. Première, Jéricho, facile. Deuxième, aïe. Ça dit tout. Ça veut dire que la vie avec Christ, la vie du croyant, c'est aussi, comme dans le voyage du pèlerin, ce fameux livre, eh bien, c'est un combat difficile. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Donc, oui, il y aura des combats faciles, mais il y aura aussi des combats difficiles. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Même si le combat est difficile. Et je suis certain que parmi nous, il y a des personnes qui en ce moment vivent des combats difficiles. Grâce soit rendue à Dieu qui te donne la victoire en Jésus-Christ. Alors quels sont nos Jéricho? Devant quelle ville indestructible, apparemment solide et qui ne peut pas tomber, est-ce que tu te trouves? Et puis Dieu te dit, vas-y, c'est pour toi. Là, j'ai envie de dire, il aurait pu rajouter, vas-y, c'est pour toi. C'est cadeau. Mais oui, en Jésus-Christ. Reste ici parce que je vais au Jourdain. Et l'itinéraire continue. Élisée retraverse le Jourdain quand il voit Élie emporté. Et Élie lui avait demandé, mais si tu m'accompagnes, qu'est-ce que tu veux finalement? Je veux une double portion de ton esprit. Vous savez quoi? Le disciple que je suis, les disciples que nous sommes, nous avons le même bénéfice qu'Élisée. Si tu vois que je monte, eh bien, cela arrivera. Si tu vois, et si dans ton cœur, tu as vu le Christ ressuscité, alors tu recevras. Si tu l'as vu dans ton cœur par la foi, tu recevras une double portion de son esprit. C'était sa promesse, c'est la réalité. Comme pour Élisée, nous recevons l'esprit pour avancer, pour grandir, traverser le Jourdain et conquérir la terre promise. C'est cela. Éminemment, Élisée est un modèle du disciple que nous devrions être aussi aujourd'hui. Ce texte de disciple d'Élisée nous montre des étapes qui sont indispensables. Lorsque Jésus appelle ses quatre premiers disciples, Pierre, Jacques, Jean, André, et aussi Lévi, Matthieu, il le fait de la même façon qu'Élie a interpellé Élisée en passant près d'eux, alors qu'ils sont à leur travail, en leur demandant simplement et nettement de le suivre. Aujourd'hui, Dieu te parle aussi de la même manière. Oui, mais je suis trop vieux. Je suis allé voir une dame cette semaine, que je connais depuis des années, j'y suis allé, je me dis, bon, voilà, j'y vais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que je suis vieux, et puis que je suis fatigué, et puis on a passé 3 heures ensemble, on a prié ensemble, et quand je lui ai demandé, mais elle est en maison de retraite, dans un petit coin, je ne sais pas combien il y a d'habitants, peut-être 2000, 3000, je ne sais pas. Et je lui ai dit, comment tu vis, comment ça se passe? Bon, bah écoute, j'annonce l'évangile quand je peux, j'ai distribué des bibles, etc. Ah bon? Quel âge tu as? 90 ans. Bon, bah d'accord, donc moi j'ai encore de la marge. T'es trop vieux? T'es pas assez intelligent ou intelligente? T'as pas assez d'expérience? Mais c'est maintenant que Dieu dépose son manteau sur toi, que tu es revêtu de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de faire de nous des disciples, des hommes et des femmes qui sont capables de se souvenir du salut, mais qui sont capables d'aller plus loin, d'entrer dans la terre promise, d'habiter avec toi dans ton Bethel, dans ta maison, capables de vaincre des Jéricho, mais aussi des Haï, capables de rentrer dans l'appel qui est celui des enfants de Dieu et dont le monde a tellement besoin. Garde-nous, Seigneur, de chercher des excuses, de vouloir nous asseoir là où nous sommes et d'attendre. Nous voulons être un peuple en marche, vivant de ta vie. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Alors je te suivrai. Amen.